Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de À la croisée des chemins, un programme mensuel dédié aux grands espaces qui permettent des séjours et voyages nature Languedoc-Roussillon Sud Massif Central en Occitanie. L'agence Languedoc Nature nous livre à chaque rendez-vous différentes destinations au gré des saisons, une multitude d'activités propices à l'environnement. À la croisée des chemins vous permet de découvrir le dynamisme de notre territoire, développe une bonne connaissance de notre belle et grande région, l'Occitanie, mais également du Massif Central. Les chemins se croisent mais ne se ressemblent pas. Pour connaître les lieux insolites, les sentiers ravissants et surtout aller à la rencontre des gens qui vivent et travaillent sur ces territoires, l'agence Languedoc Nature, partenaire de ce rendez-vous, représenté par un duo qui se repose sur la passion, la sensibilité et l'action. Il s'agit de Fabienne Levely. Bonjour Fabienne Levely, comment allez-vous ?
Bonjour Alim, eh bien je vais très très bien, merci.
Parfait. Vous êtes accompagné, comme à chaque émission, de votre grand complice, Frédéric Certain. Frédéric Certain, ravi de vous retrouver.
Bonjour Alim.
Comment allez-vous ?
Super.
Bon, ben parfait. Alors pour ce numéro du mois de novembre, l'hiver approche à grands pas. Vous nous parlez donc des activités nordiques que vous proposez de pratiquer en hiver. Tout d'abord, Fabienne et Frédéric, qu'entendez-vous par activités nordiques, bien que nous sommes dans le sud, quoique notre belle région offre différents paysages.
C'est tout simple, ce sont les activités donc, dites d'hiver et pratiquées dans les régions nordiques, à savoir la raquette à neige, le ski de fond, le ski nordique, le chien de traîneau. Voilà,
Le chien de traîneau.
Et voilà, tout à fait.
Très bien. Et comment ça se passe? Alors, c'est des maisons qui accueillent comme ça des gîtes avec cette activité-là?
Alors, ce sont des activités qui pourront être pratiquées donc en milieu plutôt montagnard. Donc, au départ, c'était des activités qui, historiquement, se déroulaient depuis toujours dans des régions comme la Scandinavie, le Grand Nord canadien, la Sibérie. Et plus généralement, dans toutes les régions dans lesquelles on va trouver un hiver rigoureux, des régions de montagne. Et donc,
et on va dire que ce sont des activités qui, à la base, étaient des modes de déplacement du quotidien pour les peuples dits autochtones, indigènes. Et c'était pour eux les moyens d'échange, des moyens d'aller chasser, d'aller piéger. Voilà, donc on s'inspire véritablement des fondements même du déplacement en milieu hivernal, tel qu'il se faisait, tel qu'il se pratiquait il y a plusieurs siècles en arrière.
Mais c'est une activité qui se développe quand même de plus en plus.
Oui.
Le chien de traîneau, par exemple.
Oui, tout à fait, parce qu'il y a eu, des films, il y a eu des récits qui permettent au grand public de se transposer sur ces activités qui apparaissent comme magiques.
Alors ça se passe comment? C'est en groupe? Alors, pour cette activité-là, hein, bien sûr.
Alors, ces activités se déroulent bien entendu en groupe, mais peuvent également concerner des individuels, puisqu'on a, des gens qui, le temps d'un week-end, veulent aller profiter d'une sortie, tant au Brac, tant sur le Mont-Lozère, pour pratiquer ces activités nordiques qui les font rêver.
Alors, pourquoi ce choix de proposer les activités nordiques ?
Alors
Fabienne.
Bon, il y a plusieurs raisons à ça. Donc la première, c'est que dans un premier temps, nous adorons ces activités de pleine nature en milieu hivernal. Nous les pratiquons à titre personnel et nous avions envie de les faire partager par des participants, par d'autres personnes qui ont envie de découvrir l'espace Massif Central ou Pyrénées.
Voilà, et justement, notre région, quelque part, s'y prête en hiver.
Complètement, complètement.
Oui, on a la chance d'avoir, en effet, sur ce Massif Central et Pyrénées catalanes, des milieux qui se prêtent merveilleusement bien à la pratique dite douce, des activités de sport d'hiver. En compagnie de guides, c'est l'occasion d'accéder à des lieux qui sont, on va dire, endormis sous le manteau neigeux. Et c'est une autre approche, d'autres sensations qui sont proposées.
Qu'on aurait du mal à franchir peut-être à pied ou
voilà, tout à fait.
En véhicule. Peut-être pas.
Oui, c'est-à-dire que ce sont des pratiques qui permettent d'investir des milieux qui sont parfois un peu reculés, faciles d'accès.
Exactement.
Et c'est vrai qu'à la base, ces activités, comme on le décrivait tout à l'heure, ce sont des activités qui permettent d'aller prospecter les forêts, les milieux enneigés à découvert. Et donc, c'est véritablement une immersion au milieu de cette nature hivernale.
Et justement, Languedoc Nature innove de ce côté-là, en proposant ce type d'activité.
Innover, c'est peut-être un bien grand mot, parce qu'on s'appuie, on s'appuie quand même sur des pratiques qui ont quelques milliers d'années.
Non, mais quand je dis, quand je parle d'innovation, je parle en matière justement ici, c'est
oui,
dans notre région.
Oui, alors dans notre région, en fait, on montre aussi qu'il est capable de profiter du milieu hivernal sans avoir des infrastructures de ski alpin, et qu'on peut vraiment pratiquer une activité de neige, tout en étant dans un milieu où le paysage n'est pas défiguré par des remontes de pente, et aussi
où on profite pleinement de l'environnement.
Complètement. Et là, on est vraiment dans le principe du tourisme durable et responsable que l'on s'attache à développer chez Languedoc Nature.
Oui, voilà. Exact. Ça, c'est votre devise. Hein.
Exactement.
Alors, comment se construisent les séjours d'activités nordiques chez Languedoc Nature?
Eh bien, déjà, ça commence par un repérage sur le terrain. Mm-hmm. Ça passe également par une étude de la cartographie, parce que lorsqu'il va falloir...
C'est vous l'éclaireur, donc.
Oui, là, en quelque sorte. En quelque sorte, donc, il faut déterminer les parcours les plus pertinents, parce qu'il va falloir tenir compte des dénivelés, il va falloir tenir compte des sites incontournables, il va falloir tenir compte, parce qu'on se situe en hiver, des abris potentiels pour abriter les personnes, si la tourmente souffle, si la burle souffle.
En cas d'impondérable, hop, vous avez toujours un plan B, on va dire, entre guillemets, pour pouvoir se protéger.
Tout à fait.
Oui, et par ailleurs, les séjours qui sont proposés sont uniquement proposés en formule accompagnée par un guide qui a le diplôme de guide accompagnateur.
Et qui connaît parfaitement le terrain.
Exactement. Et qui va permettre de... Qui sera donc soit accompagnateur en montagne, soit moniteur de ski de fond, qui sera musher aussi, donc celui qui guide les chiens de traîneau. Donc c'est le musher. Et qui va pouvoir nouer des relations avec le groupe et puis présenter au groupe le territoire sur lequel les participants se trouvent.
Voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les hivers, on met en place un programme avec des dates pour s'assurer les chances de faire partir les personnes qui se sont inscrites sur les séjours concernés. Mmh. Voilà, donc c'est important pour nous de nouer des relations de confiance avec tous ces guides que l'on a rencontrés au fil des ans et qui sont nos partenaires sur le terrain.
Et avec qui chaque année, vous retrouvez, c'est toujours...
C'est une véritable relation d'échange et de confiance qui est établie entre nous et eux.
Alors, une fois sur les différents sites, donc en fonction des séjours, on a parlé des chiens de traîneau, mais il n'y a pas que cette activité.
Alors moi, je vais commencer par vous parler de la raquette à neige, parce que c'est vrai que c'est l'activité la plus accessible d'un point de vue technique. À l'origine, les raquettes à neige donc, se fixent sur les chaussures.
Oui, allez, une petite page d'histoire.
Ouais. Et donc à l'origine, c'était des raquettes qui étaient faites en bois, avec un treillis de cordage et puis de lanières de cuir. Et aujourd'hui, maintenant, elles sont plutôt en matière composite, elles sont moins grandes, elles sont plus faciles à chausser, elles sont plus résistantes, elles sont plus maniables. Et donc elles permettent de se déplacer en neige profonde, de rester à la surface, de ne pas s'enfoncer. Et ce, sur des secteurs de sous-bois, à découvert. Alors, quand on emprunte une paire de raquettes à neige, on va marcher avec une paire de bâtons de marche. Et ça permettra de randonner en toute sécurité, en milieu enneigé. Et donc, il y a des accompagnateurs de montagne qui encadrent des séjours. Et donc, ces gens-là disposent d'une qualification spécifique. Et donc, vont présenter aussi le milieu hivernal. C'est une randonnée très thématisée, quoi.
Voilà. Oui, Fred.
Oui, et en fait, bon, c'est vrai que pour les personnes voulant découvrir une activité nordique, c'est vraiment l'entrée principale parce que ça ne nécessite pas de moyens physiques, d'endurance importants en fonction, bien entendu, du choix du parcours. Mais ça, le guide, il est amené à faire ce choix en conséquence et tenir compte du public qu'il a.
Donc il tient compte donc du groupe qu'il a devant
tout,
lui.
Tout à fait.
Mmh. Alors, on a parlé des raquettes, chien traîneau, ski de fond.
Ski de fond. Alors, le ski de fond, c'est vrai que si on revient à ses origines, il faut chercher du côté de la Scandinavie, hein, la Norvège plus précisément. Donc, c'est vrai que, contrairement à la raquette, c'est un moyen de déplacement rapide, le ski de fond. Donc, à comparer à la marche l'hiver. Donc, le ski de fond, véritablement, ça a été utilisé très, très rapidement pour la chasse, parce qu'il fallait se déplacer rapidement. Ça a été également utilisé par les militaires, hein, dès le Xe siècle, hein, par les Vikings. Et puis,
se déplaçaient
Tout à fait. Il y a des traces qui ont été retrouvées montrant que les Vikings
se déplaçaient en.
Voilà. Et donc,
on apprend des choses.
Également, le ski de fond a permis la découverte des contrées lointaines. Et ça, les contrées lointaines telles que le Groenland, sans lesquelles le ski de fond, on n'aurait pas eu possibilité de découvrir ces contrées. Mmh. Voilà. Donc, on a plusieurs familles, hein, à l'intérieur du ski de fond. On a le ski de fond sur piste et puis le ski de fond, le ski de randonnée nordique.
Alors c'est quoi la différence ?
Alors, le ski de fond sur piste, c'est un ski long, étroit, assez léger.
Là, vous parlez en matière d'équipement.
En matière d'équipement, qu'on utilise sur des pistes qui ont été préparées, damées, tracées. Donc, c'est ce qu'on appelle les rails, hein, dans lesquels on va se mouvoir. Alors, on utilise pour ça la technique. Alors, je vais faire simple, hein, d'un point de vue technique. On utilise ce qu'on appelle le pas alternatif, où là, on se propulse en effet d'un pied sur l'autre, avec un transfert du poids du corps. Et on est aidé par des écailles qui se situent sous la semelle du ski de fond et qui permettent l'accroche et donc la propulsion. Les gens un peu plus aguerris vont utiliser du fart de retenue, mais bon, je ne veux pas rentrer dans ce détail. Après, d'un point de vue, si on peut dire sportif, dans les années 80 est arrivée une nouvelle technique, ce qu'on appelle le pas du patineur, le skating, où là, on se positionne les skis en V, et alternativement, on va se propulser d'un pied sur l'autre. Mmh. C'est une technique plus sportive, qui demande un souffle.
C'est un peu comme le patinage, on va dire.
Voilà, tout à fait. Mais ça demande quand même des qualités physiques un peu plus importantes. Ça propulse le skieur.
Donc, bonne condition physique.
Ça donne une notion de rapidité à cette discipline qui parfois est vue un peu comme une discipline un peu pépère. Mmh. Mais ça peut être très, très sportif.
Et physique. Et ensuite ?
Et donc ensuite, on a le ski de randonnée nordique. Donc là, c'est un ski hors trace. On va dire que c'est le ski tout-terrain, hein, sans la pollution.
Et puis sans les rails. Il n'y a pas de chemin qui est damé ou...
Complètement. Et donc, ça va se pratiquer hors trace et on n'a pas besoin de pistes préparées. Donc, on va emprunter des parcours sur des sentiers balisés. Quelquefois, ce sont des sentiers qui vont être utilisés aussi l'été pour de la randonnée ou pour du VTT. Et donc, ces sentiers se retrouvant ensevelis sous la neige, eh bien, on va pouvoir les parcourir avec nos skis de rando nordique.
Mais il faut arriver à les repérer.
Alors, il faut arriver à les repérer, mais c'est là où avoir un guide, ça peut être quand même très, très utile.
L'une des importances du guide.
Eh ouais, c'est très utile. Et c'est beaucoup plus sûr aussi, parce qu'on ne sait jamais comment la météo peut évoluer en zone de montagne.
Exact.
Donc là, pour le coup, les skis sont un petit peu différents des skis de fond. Ils sont un peu plus larges, ils ont une carre en acier. Ils ont des écailles, mais enfin, moi, personnellement, hein, qui suis peut-être de moins bonnes conditions sportives que d'autres, je rajoute une paire de peaux synthétiques dessous pour pouvoir monter beaucoup plus tranquillement. Mmh. Après, les puristes le font sans les peaux, quelquefois. Voilà, donc avec tout ce matériel, en plus, il faut considérer que les chaussures sont très confortables, sont plus chaudes que des chaussures de skating, par exemple. Mmh. Et donc, ça permet de vivre une aventure un peu plus longue, tout en sachant que les journées sont courtes et qu'il faut être rentré à 17h, n'est-ce pas, Frédéric ?
On sent le retardataire.
Oh, c'est moi la retardataire.
Ah, d'accord. Oui, Fred.
Oui, en fait, je voulais rajouter que c'était en fait l'ancêtre du ski actuel, le ski de randonnée nordique. On peut imaginer que dans les temps anciens, éloignés, le ski de randonnée nordique, tel qu'on l'a été utilisé par les peuples premiers pour se déplacer en milieu enneigé. Voilà.
Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un instant. Vous êtes sur FM+, et vous faites bien.
Cursed and run from town to town, the shadow stays like a dog here down. Through the smoke and through the flames, the highest mountain to the lowest plain, redemption brings the final cause. He's the walking ghost of your lover lost. There are always people who need someone. Now it's you.
Faccini, bienvenue si vous venez de vous joindre à nous pour ce numéro du mois de novembre à la croisée des chemins. Un rendez-vous en partenariat avec l'agence Languedoc Nature. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux destinations et aux activités nordiques. Je suis toujours en compagnie de Fabienne Levely et Frédéric Certain. Juste avant cette pause, nous avons parlé du thème des séjours, les différentes activités, leurs origines. On a parlé donc des raquettes, de ski de fond, et on poursuit donc, on va développer un peu plus sur les chiens de traîneau. Frédéric ?
Oui, alors le chien de traîneau, c'est vrai que lorsqu'on évoque l'ambiance nordique, on pense souvent aux chiens de traîneau à travers les grandes épopées, les grands récits, les récits d'aventure, bien entendu, les explorations, sans les chiens de traîneau, elles n'auraient pas été possibles. Le chien de traîneau permettait de tracter des attelages avec des charges lourdes, nécessaires donc...
Et sur de grandes distances.
Voilà, tout à fait, nécessaires à tout l'aspect logistique.
Et malgré le grand froid.
Et malgré de très grands froids.
Ils ont une sacrée résistance.
Tout à fait. C'est des chiens vraiment exceptionnels sur le plan résistance physique. On est toujours très surpris que des animaux comme ça puissent résister. Alors aujourd'hui, c'est devenu une pratique de loisir, hein, à l'exception des populations qui sont situées dans les régions polaires, même si là encore, la motoneige a tendance
à remplacer un peu.
Hein, c'est parfois plus facile de rajouter un peu de carburant que d'entretenir...
La facilité.
Voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est une activité qui est pratiquée par des passionnés, des amoureux des chiens aussi. Donc parmi ces chiens, on trouve différentes races, hein, les huskies, les samoyèdes, les malamutes, les groenlandais.
Donc, bon, les plus connus, c'est les huskies.
Voilà, tout à fait, les huskies sibériens. Et c'est vrai que c'est des animaux qui font rêver, qui attirent beaucoup les gens. Les gens, parfois, ne pensent pas à la nécessité de dépenses d'énergie de ces chiens. Et ça fait toujours un peu de la peine quand on voit des gens qui habitent en appartement avoir de tels animaux. Voilà, donc...
Par traîneau, il faut combien de chiens en moyenne?
Ça dépend.
Il y a un minimum, il y a un maximum. Comment ça s'organise?
Ça peut être entre deux et six chiens, hein, en fonction des profils rencontrés, des types de chemins empruntés. Ça dépend aussi si ce sont des traîneaux, on va dire, individuels ou des traîneaux biplaces.
Biplace, ou des traîneaux qui sont susceptibles de transporter
du matériel pour le bivouac hivernal, parce que parfois dans certaines contrées il n'y a pas les hébergements possibles, donc il faut envisager des bivouacs hivernaux. Quant à nous, c'est vrai qu'on est dans des formules confortables, hein, avec de l'hébergement dur. Donc,
Oui, bon, il n'y a pas de bivouac. Hein.
Voilà, tout à fait. Et donc, l'activité est encadrée par des mûcheurs professionnels, hein, des vrais passionnés. Hein, et nous qui évoluons sur le plateau Ardéchois, on a vraiment la chance d'avoir des équipes vraiment rompues à cette activité. C'est toujours un plaisir d'envoyer des personnes découvrir le chien de traîneau.
Alors, comment se déroulent les séjours que vous proposez?
Alors, ces séjours, nous les avons déjà co-construits avec les guides, les accompagnateurs, les hébergements. Et puisque, comme le disait Frédéric tout à l'heure, ces séjours, ils sont construits après un repérage. C'est-à-dire que nous allons voir déjà sur le terrain, pendant les hivers, nous allons repérer les sentiers qui sont les plus intéressants, d'un point de vue paysager, d'un point de vue patrimonial aussi. Nous, on propose des formules tout compris.
Oui, hein. Voilà. Donc, c'est vrai qu'au sens de l'organisation, les participants n'ont qu'à se consacrer à leur séjour. Hein. Tout a été finement organisé, de façon à ce que vraiment ils profitent pleinement de leur expérience. En plus, ce qu'on veut absolument, c'est qu'ils arrivent la veille au soir, pour des raisons à la fois de sécurité, parce qu'on ne sait jamais ce que vont être les conditions
météo
de circulation. Donc, arrivant la veille au soir, c'était quand même une formule tout confort. En plus, lorsque le guide est disponible, il passe voir les participants. C'est un premier contact, donc ça apporte quand même un peu de chaleur et puis de côté humain dans ce séjour.
Et de prendre ses tout premiers repères.
Et justement, Frédéric parlait des guides. Donc ces guides, on en a parlé tout à l'heure, hein, les accompagnateurs, les moniteurs de ski de fond, les mûcheurs. Ils jouent un rôle très important parce que ce sont eux qui vont adapter les prestations en fonction des participants. Donc on va tenir compte du niveau technique, du niveau physique, de la santé des uns des autres et aussi de la présence ou pas d'enfants. Et ça a vraiment beaucoup d'importance pour pouvoir s'adapter à ce que l'on va faire à la famille, au groupe d'amis, etc. Et donc tenir compte aussi, évidemment, de la météo et pour faire face à toutes les conditions en toute sécurité, quoi.
Alors que ce soit pour la randonnée ou pour skier, quels sont les vous emmenez donc toutes ces personnes donc qui participent à ces aventures, où exactement?
C'est vrai que tout à l'heure, on l'a un petit peu évoqué, comme quoi les activités nordiques n'allaient pas forcément de soi, de prime abord. Et en effet, nous, on s'est tout de suite transposé sur ces territoires du sud Massif central, des Pyrénées-Orientales, parce que l'hiver venu, on a des conditions véritablement nordiques, et ce, à peine plus d'une heure de route de Montpellier.
Alors, on ne croirait pas.
Eh oui, tout à fait.
Eh oui.
Et donc, à commencer par les Cévennes, avec le massif de l'Aigoual. En effet, donc à 1h15, 1h30, on peut être dans une ambiance tout autre que celle de la place de la Comédie ou de Palavas-les-Flots. Et on peut faire de belles randonnées en raquettes, en sous-bois, en ski de fond. Et c'est vraiment un plaisir d'être au sein de ce parc national. De ce parc national, parce qu'il y a de très nombreux parcours. Et puis, cerise sur le gâteau, c'est toujours un réel plaisir d'aller faire l'ascension du Mont Aigoual, reconnaissable d'entre tous, avec son observatoire météo.
Alors, pour celles et ceux qui sont en notre compagnie, qui souhaitent participer, quelles sont les périodes retenues, les prochains séjours à ne pas manquer ?
Pour les prochaines périodes retenues, on peut dire que la fin du mois de décembre sera certainement une période propice, mais on ne peut pas s'engager sur la météo. Nous ne sommes pas des devins à aucun moment. Jusqu'à la fin du mois de... à la mi-mars, on va dire qu'on a des possibilités de départ sur ces zones hivernales. Il nous est arrivé une fois de partir en randonnée hivernale. On avait au préalable préparer les skis. La neige n'était pas suffisante pour sortir les skis. Nous avons fait la randonnée à pied, même sans raquette. Et on a trouvé une nature exceptionnelle qui était vraiment... On était vraiment dans l'ambiance hiver, dans l'ambiance neige, même si elle n'était pas suffisante à notre goût.
Donc il y a également parfois, au cours des séjours, des surprises.
Des surprises et des agréables surprises.
Oui. Bien sûr.
Et donc, pour pas faire de jaloux, parce qu'on a évoqué le Mont Aigoual, mais il faudrait aussi quand même parler d'autres secteurs, comme le Mont Lozère, qui est un secteur du parc national des Cévennes qui est fabuleux pour la pratique des activités nordiques, notamment parce qu'on est sur ces grands espaces à découvert, ces landes, ces blocs de granit, et ces ambiances véritablement hivernales. On a l'impression d'être parfois sur une toundra. Il y a l'ascension du Mont Finiel, qui est quand même le toit des Cévennes, le toit de la Lozère. Il y a ces hameaux historiques, Belcos, le Salarial, Mascamargues, qui sont autant d'hameaux qui font rêver pour ces activités hivernales. Il y a également l'Aubrac. C'est un plateau volcanique qui est situé un peu plus au nord, qui est également très intéressant avec ses prairies parsemées de burons, qui était le théâtre de la production fromagère.
Et du coup,
oui,
la production fromagère, c'est vrai que fin de journée, quand on a bien pris le vent, bien pris la tempête, bien pris la neige, eh bien, on va peut-être être très content de déguster un bon aligot à la tome de l'aïeul, voilà, auprès du feu.
Voilà, on joint l'utile à l'agréable.
Complètement.
Goûter au plaisir de randonner en raquette, de fouler en ski de fond, de raid nordique ou de sortie en chien de traîneau. Tel est le programme que Languedoc Nature propose pour cet hiver, en famille, en solitaire ou en passionné d'aventure. Vous pourrez trouver votre bonheur et assouvir votre passion au cœur des espaces naturels protégés. Plus que jamais, Languedoc Nature vous propose de randonner ou skier autrement. Pour tout renseignement, www.languedoc-nature.com, demandez Fabienne ou Fred. C'était à la croisée des chemins du mois de novembre. Merci Fabienne Levely.
Merci.
Merci Frédéric Certain. On se donne rendez-vous en décembre.
Parfait.
C'est parfait.
Allez, c'est noté. Allez, on se quitte sur une citation d'Émile Zola. Rien ne développe l'intelligence comme le voyage. Languedoc Nature se rattache à cette vision. Excellente excursion à toutes et à tous. Bye bye.